Oh, mikis pastil.
Mikis pastil.
Oh, mikis kis pas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde, nous sommes le jeudi 7 mai. Aujourd'hui, on va passer un petit moment à s'intéresser à l'irruption de plus en plus fréquente de l'armée dans les programmes éducatifs et en tout cas une volonté d'embrigader la jeunesse. Le mot, pour le coup, est complètement bien choisi. Voilà un long article du média Basta qui s'y intéresse. On va parler aussi de cette grande manifestation qui a lieu tous les ans à Paris le 9 mai, une manifestation néo-nazie, un défilé néo-nazi, néo-fasciste qui normalement est interdit mais se passe quand même chaque année, donc on ne sait pas ce qu'il en sera pour cette année, avec aussi un rassemblement antifasciste qui est lui aussi interdit. On fera un petit peu le point sur les tenants aboutissants de tout cela. Et avant tout cela, quelques nouvelles de l'environnement et du climat, avec quelques brèves notamment ramassées dans le journal en ligne Reporter. Un premier article qui rappelle l'importance des points de bascule. Si vous ne connaissez pas cette notion, elle est fortement justement importante dans la compréhension des mécanismes du réchauffement climatique. Les points de bascule, c'est le fait de dire que les systèmes physiques en général n'évoluent pas de manière linéaire, on passe pas progressivement d'une situation A à une situation B. En général, il y a un moment donné où tout s'accélère comme dans une réaction chimique, et c'est ce qui fait craindre notamment l'irruption de phénomènes violents du côté climatique. On apprend, par exemple, dans cette info qui concerne la forêt tropicale amazonienne, qu'environ les deux tiers de la surface de cette forêt tropicale amazonienne, les deux tiers, hein, pourraient disparaître si deux seuils critiques étaient atteints. Alors déjà, à quoi ressemblerait une forêt tropicale amazonienne si elle disparaissait ? Eh bien, on arriverait sur une forêt sèche très dégradée, ou presque même une savane. Donc vraiment très très loin de l'état actuel de la forêt amazonienne, qui va encore pas trop mal. Et donc deux seuils sont en ligne de mire et font peur, hein. Le premier, c'est la température du réchauffement climatique. Et si celui-ci atteint entre 1,5 degré Celsius à 1,9 degré Celsius d'augmentation, ça pourrait fortement donc dégrader l'état de cette forêt. Et de l'autre, c'est la déforestation qui est, elle, liée aux activités humaines aussi, mais là directement, hein. Et si celle-ci atteint entre 22 et 28% de l'Amazonie, ça pourrait faire basculer donc complètement l'écosystème amazonien. En tout cas, c'est la conclusion de cette étude. Elle a été menée par l'Institut de recherche de Potsdam en Allemagne sur les effets du changement climatique. Elle vient d'être publiée dans la revue Nature ce 6 mai. Ce n'est pas la première fois que les scientifiques alertent sur ces risques. L'Amazonie, on l'appelle le poumon de la planète, elle fait partie des composantes cruciales du système climatique terrestre. Elle a un énorme rôle de régulation. Ces composantes, dont l'Amazonie fait partie, sont menacées de franchir des points de bascule et d'aggraver donc encore la catastrophe, en tout cas de l'accélérer fortement. Cette nouvelle étude tente encore d'alerter, ne fait que renforcer le message d'alerte absolue des scientifiques. La déforestation et le changement climatique se combinent de manière catastrophique. À titre de comparaison, par exemple, si on enlève une de ces deux variables, par exemple, si on ne coupait plus aucun arbre en Amazonie et que c'était simplement l'augmentation des températures globales qui était prise en compte, il faudrait monter jusqu'à 3,7 à 4 degrés Celsius d'augmentation de la température terrestre pour que la forêt amazonienne se transforme en savane. On parle de ce phénomène de savanisation. Or, à l'heure actuelle, on n'en est pas du tout à zéro déforestation. Au contraire, on est environ à 18% de l'Amazonie qui a été rayée de la carte par la déforestation, souvent au profit de cultures agroalimentaires qui sont malgré tout souvent étiquetées vertes d'ailleurs. Eh bien, à côté de cela, si on regarde juste l'augmentation de la température et le seuil de 1,5 à 1,8 degrés, on est en train de s'y approcher là pour les prochaines années qui arrivent. À titre d'exemple, d'ici 2100, si ça continue comme ça, on sera à peu près à 3 degrés Celsius. La déforestation vient aggraver les sécheresses en Amazonie, car la forêt tropicale, la plus gigantesque du monde, génère pas moins de la moitié de la pluie qu'elle reçoit. C'est-à-dire que les arbres transpirent, font des nuages et ils retombent sur place. Donc c'est un petit système clos au niveau de l'eau. Et donc plus on enlève des arbres, et bien plus les sécheresses vont s'aggraver et plus ce cercle vicieux de la savanisation de tout l'écosystème menace. Le co-auteur de l'étude, Johan Rockström, alerte. Jusqu'à présent, la forêt amazonienne a joué un rôle essentiel dans la stabilisation du système terrestre en tant que puits de carbone. Vous le savez, les arbres assimilent une partie du carbone dans l'atmosphère, le CO2. C'est donc le régulateur du recyclage de l'humidité aussi, avec le phénomène de cette eau qui est transpirée puis qui retombe sous forme de pluie. Et enfin, c'est un refuge de biodiversité terrestre. C'est l'endroit où il y a la plus grosse diversité de la planète. La déforestation continue menée par les activités humaines compromet cette stabilité et rapproche donc la forêt d'un point de non-retour. Ce serait non seulement dévastateur pour la région, mais pourrait avoir aussi des conséquences considérables pour la planète entière.
L'air pur, l'eau pure à une terre saine. De ces trois choses, n'en plus une seule. Voilà, et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
Et on va parler de l'aviation, notamment au départ de l'Europe. En 2025, les vols donc au départ de l'Europe ont émis presque 200 millions de tonnes de CO2, 195 millions exactement. Ils viennent donc dépasser pour la première fois les niveaux d'avant le Covid. C'est ce que vient révéler cette étude menée par l'ONG Transport and Environment, publiée elle aujourd'hui même. La croissance notamment des compagnies low cost explique en partie cette hausse. Ainsi, Ryanair, la compagnie, est le premier émetteur européen avec 16,6 millions de tonnes de CO2. Eh bien, Ryanair simplement a augmenté ses rejets de 50% par rapport à 2019, donc la moitié plus. Les émissions de la France sont à 22,1 millions de tonnes de CO2, frôlent tel aussi leur niveau d'avant pandémie. Le secteur aérien reste pourtant très peu soumis au marché du carbone européen, puisque ce marché du carbone européen n'inclut que les vols intra-européens et pas ceux qui vont à l'extérieur de l'Europe. Deux tiers des émissions de ce secteur en sont donc exemptées. Ça représente 80% pour les vols de compagnies françaises. En gros, si on fait que c'est très peu soumis au marché du carbone, c'est l'équivalent d'une subvention publique d'une hauteur de 8,5 milliards d'euros à l'aviation européenne, ce qui n'a aucune justification vu son impact climatique désastreux, explique Jérôme Duboucher, qui est le responsable aviation donc de l'ONG TNE France, dans ce communiqué suite à la publication de cette étude. L'ONG appelle donc à étendre le marché du carbone européen à tous les vols décollant du territoire européen, ce qui permettrait de générer jusqu'à 17 milliards d'euros de recettes annuelles d'ici 2030, des taxes qui pourraient par exemple être utilisées pour développer des carburants alternatifs comme les biocarburants, la même ONG publiait l'an dernier que ceux-ci pourraient pourtant eux-mêmes émettre plus de CO2. Ouais, l'idéal, ça serait peut-être plutôt d'arrêter de partir en week-end en avion.
Non mais n'importe quoi, non mais...
Et on parle maintenant économie cette info, des chiffres bon, qui datent de l'année 2021 mais qui viennent juste d'être publiés parce que ça prend du temps, je pense, les études statistiques. On y apprend qu'en France, les personnes éligibles au RSA, les foyers éligibles au RSA, sont plus d'un tiers à ne pas le percevoir. C'est une étude qui a été menée par la DREES, la DREES. C'est la direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Bon, ils ont, je vous le disais, fait cette étude sur des résultats de 2021, mais on peut imaginer que les choses n'ont pas évolué de manière révolutionnaire en 4 ans. Les foyers donc qui ne recourent pas à ce RSA, en majorité, c'est le profil de célibataires de moins de 30 ans sans enfants. des mères isolées ou encore des couples avec enfants et un emploi salarié. Donc pas forcément les plus pauvres de ce qu'on imagine être des RSAstes. Et pourtant, le RSA couvre plein de situations différentes. Donc un tiers des foyers qui sont éligibles à cette aide ne le perçoivent pas, ne l'ont pas demandé. Hein. C'était ce qu'on a vu au dernier trimestre 2021. Le versement du RSA, vous le savez, n'est pas automatique, hein, il faut le demander. Donc on peut y avoir droit et ne pas le percevoir. En moyenne, donc, les foyers éligibles qui ne perçoivent pas cette allocation ont un statut socio-économique moins défavorisé que ceux qui le perçoivent. On parle de gens qui sont par exemple propriétaires de leur logement, qui ont un niveau de vie plus élevé, qui sont plus diplômés et plus proches de l'emploi. Donc des gens qui ne travaillent peut-être pas à temps plein ou qui sont entre deux emplois. Oh, on peut aussi parler de ces personnes qui sont éligibles au RSA, qui ne le seront que pour des périodes plus courtes. Par exemple, le temps juste de rebondir entre deux situations. Parmi donc ces foyers qui ne recourent pas au RSA, 2 sur 5 sont éligibles à un montant de 400 euros ou plus par mois quand même. Je vous le disais, ça compte majoritairement des célibataires sans enfants, entre 25 et 29 ans, et le plus souvent qui vont être hébergés gratuitement, par exemple, chez leurs parents. Les foyers non recourants qui sont éligibles à un montant de 200 euros ou moins vont représenter 42% de ces foyers qui ne perçoivent pas le RSA. Et là-dedans, on peut parler plus souvent de femmes seules avec enfants ou encore des couples avec enfants et un des deux qui travaille.
Non mais n'importe quoi, non mais...
Allez, on part maintenant du côté de Paris où est attendu, enfin ou plutôt n'est pas attendu, mais il arrive quand même, chaque année, le C9M, le comité du 9 mai. Donc C9M, c'est son petit, sa petite abréviation. Comme en 2024 et 2025, la préfecture de police de Paris a donc annoncé ce mardi l'interdiction du défilé du comité du 9 mai. C'est cette réunion annuelle des mouvements néofascistes français et européens, un des plus gros rendez-vous maintenant au niveau européen. Dans l'arrêté de l'interdiction de la préfecture, donc signé Patrice Faure, le préfet de police, sont pointés le contexte politique tendu. En effet, on est 3 mois après la mort du néofasciste Quentin de Ranque à Lyon, à qui d'ailleurs ce défilé 2026 est dédié, puisque c'est un défilé qui commémore les victimes, les martyrs donc de la lutte des néofascistes. Il prévient le communiqué aussi d'ailleurs d'un risque sérieux d'affrontement violent avec des contre-manifestants. En effet, un week-end antifasciste est organisé pas loin de Paris et il y a aussi une demande de contre-manifestation qui elle aussi s'est vue remettre un refus de la part de la préfecture. On revient quand même sur ce communiqué, hein, sur ce comité 9 mai. Donc le défilé existe depuis 1995. Il était devenu plutôt très confidentiel, mais a connu un regain d'affluence et d'affluence puisqu'il y avait plus de 1000 participants en 2025 et des participants pas très discrets. Hein. C'est un défilé OPA militaire avec des gens habillés tous pareils. C'est devenu l'un des rendez-vous les plus importants des fascistes français et européens, expliquaient dans l'IB les organisateurs de la contre-manifestation dans leur tribune, une tribune donc pour exiger l'interdiction et réclamer aussi le droit de faire une contre-manifestation. Elle est publiée dans les colonnes du média Politis. Donc en 2025, l'an dernier, ce défilé avait été annulé par la préfecture, mais autorisé par le tribunal administratif, puisque les organisateurs avaient fait une demande d'annulation. Et ça avait encore été l'occasion pour ces centaines, voire ce millier de militants d'extrême droite, parfois venus de loin, de parader impunément dans les rues parisiennes. Les vidéos sont assez effrayantes, et ce, sous la protection d'un cortège de police. Les manifestants ont le visage très souvent masqué. Ils arborent parfois des tatouages nazis, même si souvent ils essaient de les camoufler sous des bas ou des habits qui recouvrent. Les manifestants et manifestantes se réunissent habituellement dans la cour d'un immeuble où avait chuté mortellement donc, le militant nationaliste Sébastien Desieux, qui est donc mort, en fuyant la police en 1994. Le cortège de l'an dernier était mené par le militant multicondamné Marc de Caqueret-Valmeignier, une figure mythique chez les néo-nazis français, qui est d'ailleurs aussi le chef de la sécurité pour Monsieur Bolloré sur son île. Mediapart a fait un petit peu de boulot, et ils ont un peu été fouinés en ligne pour voir justement qui avait fait les demandes cette année, parce que c'est une manifestation donc, dont la demande est faite à la préfecture, avec quelqu'un qui la déclare. Et cette demande a été effectuée, c'est toujours par des jeunes femmes hein, qui font les demandes de manifestation à l'extrême droite. Cette année, c'était Joséphine de la Chapelle. Elle est bijoutière et montre fièrement sur sa page Facebook, par exemple, ses boutons de manchette qu'elle fait elle-même en forme de croix celtique. Elle s'affiche d'ailleurs portant un t-shirt d'une organisation italienne, Casa Pound, des néofascistes. Et elle est sur le point d'épouser un militant de la mouvance d'extrême droite aussi, il s'appelle Erwan. Lui fait partie du groupe versaillais Octorum. Il est membre actif de ce groupe plutôt très catho, un jeune homme de 23 ans, qui a d'ailleurs été lui aussi arrêté en juillet 2022, en pleine nuit. Il était en train d'attaquer une librairie associative à Angers, accompagné de deux autres copains. L'engagement politique de ce couple est donc bien enraciné. Les parents aussi sont dans les groupes d'extrême droite. Certains ont fait un petit peu leurs armes au RN. Et on est donc bien plus loin qu'un simple attachement au catholicisme. Et petit détail qu'a pointé Mediapart. En prévision donc de ce mariage, une liste de cadeaux. Ils ont publié leur liste de mariage pour les gens qui vont participer à leur fête. Et entre vaisselle, électroménager ou un séjour au Puy du Fou, les futurs mariés ont mis une proposition de contribuer à l'achat d'une peinture, un tableau d'un peintre autrichien d'une valeur de 1488 €. C'est plutôt une blague, a priori, une private joke, pas très subtile. Le peintre, le tableau en question, c'est une représentation de Marie et Jésus qui est attribuée à Adolf Hitler en 1913. Vous savez qu'il avait fait ses débuts dans l'art. Et 1488, donc le prix, c'est une référence qui fait rire les fachos. 88, c'est 8, c'est la 8e lettre de l'alphabet, ça fait H, donc HH, Heil Hitler. Tout ce qui est Légion 88, Division 88, en général, c'est des trucs de nazis. Et le 14 aussi, c'est une citation qui les fait rigoler, visiblement. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu le profil des organisateurices. Pour ce qui est du porte-parole, Jean-Eudes Gana, face aux journalistes, il avait du non-non, aucune référence néo-nazie dans le cortège, malgré les évidences, notamment les gens qui se baladent en faisant des Sieg Heil. En tout cas, comme en 2024 et 2025, le comité donc, du 9 mai a annoncé avoir déposé un recours pour casser l'arrêté d'interdiction de la préfecture. Et d'ailleurs, cette année encore, disent-ils, nous n'avons aucun doute sur le fait que le tribunal nous donnera raison et qu'ils auront donc le droit de manifester sous protection policière. Sollicité par Mediapart, celle qui a demandé déclarer la manif n'a pas souhaité répondre. Donc, je vous le disais, en 2024 et en 2025, ce rassemblement a été autorisé en dernière minute. La police en avait assuré la protection face à de nombreux passants aussi interloqués qui souhaitaient notamment manifester leur désaccord. Et donc, en face aussi, ça s'organise du côté antifasciste. Un rendez-vous est donné dès vendredi à Paris pour un village antifasciste, place du Panthéon. Et le samedi, ils appellent à investir massivement les rues de la ville pour faire face à ce défilé. Rendez-vous à donner à 14h place Saint-Michel ou en cas d'interdiction de la manif à 15h à Port-Royal. Et enfin, ils appellent à un rassemblement métro-nation place des Antilles le dimanche pour un village de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc voilà, vous l'aurez compris, le rassemblement antifasciste lui aussi était interdit par la préfecture dans un élan qui renvoie dos à dos les deux mouvements, comme si c'était la même chose. Et d'ailleurs, ce cortège antifasciste qui est porté par la marche des solidarités, des collectifs de sans-papiers ou des mineurs isolés, le collectif antifasciste de Paris 20e et d'autres très nombreuses organisations politiques ou syndicales fait savoir ceci dans son communiqué suite à l'interdiction de la préfecture. Leur laisser la possibilité de défiler tranquillement, c'est leur laisser le pouvoir de s'en prendre aux musulmans, aux juifs, aux juives, aux personnes non blanches ou celles qui n'ont pas les bons papiers, aux personnes trans, homosexuelles, etc., de mettre fin à nos grèves et aux mobilisations et de tuer. C'est leur permettre de prendre confiance et de se renforcer. Voici ce qui est écrit dans les mots de la tribune. Et on reste dans la vibe brune, qui est brune, bleu marine, je sais pas trop, qui est en train de secouer un petit peu le pays et l'Europe et le monde, on va dire. Un long article du média Basta s'interroge justement sur les incitations à la jeunesse, notamment à rejoindre les rangs de l'armée. Il se pose la question, est-ce qu'on aura bientôt un bac mention patriote ? Le 25 mars dernier, Édouard Geoffrey, qui est le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé au Forum de Paris pour la défense et la stratégie que la participation aux classes défense et sécurité globale serait mentionnée sur le diplôme du baccalauréat et valorisée même dans Parcoursup. Ce sont donc de ces fameuses classes défense dont on va parler ici. Ce sont des classes qui sont adressées aux collégiens et lycéens dans le cadre de leur scolarité, qui vont durer 3 ans, alors que pour l'instant, elles existent déjà un peu sous forme pilote. Elles durent pour l'instant qu'une seule année. Elles vont être rebaptisées au lycée, ça s'appellera classe de défense et de cohésion nationale. Leur objectif, sensibiliser la jeunesse aux enjeux de défense dans un contexte international de montée des tensions et de menaces des conflits. Mais alors que ces classes sont en train de se généraliser, la manière dont certaines se déroulent laisse perplexe, notamment au sein des, chez les étudiants, chez les parents ou les professeurs. Quelques exemples dans cet article, j'ai un petit peu écourté quand même. Le 6 novembre 2025, un rallye citoyen, c'est une journée de découverte des métiers en uniforme, a été organisée à destination donc, de cette fameuse classe défense et sécurité globale. C'était au lycée Michelet à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. C'est le stand des surveillants de prison, de la prison de Fresnes, qui était là et qui proposait aux élèves un atelier. Ça s'appelle « Vie ma vie de détenu ». D'un côté, une équipe de jeunes enfile les matériels de protection des surveillants de prison. Et de l'autre, une autre équipe de jeunes va jouer le rôle des prisonniers. Ils sont invités à tester la solidité du matériel en donnant des coups de matraque sur les matons. Les faux prisonniers récalcitrants seront ensuite plaqués au sol par les vrais agents de l'administration pénitentiaire. L'objectif pédagogique de cette activité est bien visiblement faire comprendre aux adolescents que ce n'est pas la peine de se révolter contre les forces de l'ordre et accessoirement qu'il ne faut pas aller en prison, mais ça, évidemment, on ne le souhaite à personne. Ce scandale, en tout cas, a poussé la mère d'un des parents qui était présent sur place, un jeune de 14 ans, à contacter donc les médias, puisqu'en allant chercher sur Internet, elle a compris que la classe défense dans laquelle était son fils se traduirait par des interventions régulières de ce type, hein, avec des militaires aussi dans la classe de son fils. Pour moi, dit-elle, la défense et la citoyenneté, ce sont deux choses antinomiques. L'armée est une institution hyper hiérarchique qui n'est en rien émancipatrice. Et donc, avec quelques mères d'élèves, elle a fait savoir à l'établissement qu'elle ne consentait pas, mais ça n'aboutit à rien. Son énervement, d'ailleurs, est encore monté quand son fils est revenu d'une des conférences du colonel qui était présent en classe, avec un livret sous le bras. Le livret s'intitule « Ma première cérémonie militaire ». Un fascicule qui est écrit par Isabelle Lecointre, c'est l'épouse de l'ancien chef d'état-major des armées, François Lecointre. Et ce livret est par exemple sponsorisé par des grandes entreprises d'armement, Dassault, Safran ou MBDA Missiles. Et apparemment, il aurait aussi bénéficié pour son édition de 30 000 euros de la part du milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Sterrin. Ça, c'est le canard enchaîné qui a révélé ça. Dans ce petit livret, eh ben, on parle des cérémonies militaires du 14 juillet et du 11 novembre, mais bizarrement, ils ont oublié celle qui va avoir lieu là, ce 8 mai, puisque c'est la victoire sur le nazisme. Depuis un an ou deux, on nous alerte sur des classes défense ouvertes, sans consultation des conseils d'administration, déplore du côté des syndicats David Dumont, il est secrétaire général adjoint de la FCPE. Au cours de ce fameux forum de Paris, hein, le ministre de l'Éducation a expliqué qu'il ne voulait pas arbitrer au niveau national le caractère obligatoire ou bien volontaire de la participation à ces classes. Ça sera donc à chaque établissement de la rendre obligatoire ou non. Si ce dispositif n'est pas toujours volontaire pour les élèves et leurs parents, donc ils ont encore le choix, en tout cas il est censé l'être pour les professeurs. Pourtant, une de ses enseignantes, Sophie Vénétité de la FSU, le syndicat, a fait part en interne de pressions exercées sur les professeurs pour créer et lancer ce type de classe. C'était le cas notamment dans le département de Seine-et-Marne, où 70 classes de ce type ont été lancées. Une pression qui va s'exercer aussi par le biais de la formation des enseignants. Par exemple, dans les formations proposées à ces profs, enseigner et transmettre la paix à travers les archives du Quai d'Orsay. Elle est proposée par l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Et dans cette formation, auquel a assisté un enseignant professeur d'histoire dans l'Académie de Créteil et qui rapporte ça aux journalistes de Basta, donc il y a vu un général en uniforme qui arbore ses médailles, leur tenir un discours autour de l'idée que guerre et paix font partie d'un même cycle, qu'il faut dépasser tout sentimentalisme et se préparer à s'y confronter. Hein, la guerre, c'est la paix, on s'en rappelle George Orwell. L'objectif avoué par les organisateurs de cette journée de la formation, c'était d'inciter donc les professeurs à créer ces fameuses classes défense. Non pas, disent-ils, pour recruter des élèves, mais pour plutôt modifier la vision que les élèves peuvent avoir de l'armée. Les militaires semblaient en effet insatisfaits de ne pas parvenir à toucher les milieux les plus éloignés du monde militaire. Donc voilà, vous voyez, plein d'incidents comme ça qui frottent hein, dans le milieu de l'éducation, que ce soit au niveau des parents ou des profs, et qui montrent un petit peu cette lame de fond, hein, celle, la montée en puissance du dispositif de ces classes Sécurité Défense Globale, CSDG. C'est pas nouveau, en effet, elles ont été créées en 2005. Elles restent pour l'instant peu utilisées. Jusqu'à 2016, où ça a repris un petit coup de boost. Il y en avait 160 en 2016. Et petit à petit, elles se sont multipliées. Il y en a 1200 aujourd'hui en France, ce qui touche environ 32 000 élèves pour l'année scolaire 2025-2026. Dans le document qui est distribué aux professeurs, on lit « Une classe de défense est un projet pédagogique et éducatif interdisciplinaire et pluriannuel en lien avec la défense, mené à l'initiative d'un établissement scolaire, et ce en partenariat avec une entité du ministère des Armées marraines. Ça consiste en des temps de rencontres et d'échanges entre les élèves et les militaires répartis tout au long de l'année. Des classes qui s'adressent, vous l'avez peut-être deviné, particulièrement aux quartiers d'éducation prioritaire, les quartiers REP, les pauvres, on va dire ça, et les zones rurales isolées. Et cela plutôt qu'à des écoles de centre-ville ou des quartiers plus aisés. Pourtant, nulle part n'est expliqué pourquoi cette priorité a été fixée. Les militaires sont-ils formés à intervenir auprès de ces collégiens et lycéens? Y a-t-il de la formation en interne? Un contrôle des interventions aussi? Et selon quels critères et par qui? Le ministère de l'Éducation nationale a botté en touche face aux journalistes qui lui ont posé ces questions. Ces classes, CSDG, pardon, donc classe défense et sécurité, sont la tête de pont d'un millefeuille de dispositifs qui sont censés resserrer les liens entre l'armée et l'éducation nationale. Il y en a d'autres. Ils sont présentés de manière synthétique, si vous souhaitez les voir, dans un petit livret kaki qui s'appelle « Acculturer la jeunesse à l'esprit de défense ». Ça, c'était publié en novembre 2025. Vous pouvez le consulter en ligne. Les militaires peuvent aller donc au-devant de la jeunesse, hormis ces classes, dans des journées de découverte des métiers, par exemple aussi sur les forums de l'emploi, des stages d'observation pour les secondes et les troisièmes, et aussi lors des journées de défense et de citoyenneté qui sont, elles, obligatoires. Au programme de ces journées, une cérémonie de levée des couleurs en chantant la Marseillaise le matin, un atelier de tir sportif au laser, et puis, pour rester dans le thème, les élèves vont manger à la cantine avec une ration du soldat à midi. L'armée se donne donc de plus en plus de peine pour attirer aussi les élèves des classes pro, des secteurs des classes professionnelles. L'ambition est de garantir des flux constants et pérennes entre les établissements scolaires et les unités opérationnelles de l'armée de terre qui proposent des filières qui correspondent aux filières d'enseignement pro. Le volume des partenariats pourrait considérablement progresser à court et moyen terme. Voilà, vu qu'effectivement tous les budgets vont à l'armée, c'est uniquement là qu'on pourrait éventuellement trouver du boulot. Et ces multiples dispositifs, il en existe plus de 150, selon le collectif contre la militarisation de l'éducation nationale qui a essayé de les recenser, ne datent pas d'hier. C'est le fruit d'un partenariat ancien qui a débuté dans les années 80 de manière formelle, mais on peut remonter sinon sur les liens entre école et armée très très loin, au début même de l'école, puisqu'on peut regarder le fameux Jules Ferry qui, dans son arrêt du 27 juillet 82, ordonne aux instituteurs de faire aimer aux élèves la France et la mère patrie. Voici ce qu'on y lit. À partir de 11 ans, les petits garçons doivent être éduqués au maniement des armes, aux marches coordonnées, à la topographie et à la gymnastique, afin d'affirmer leur tempérament et de les préparer à être de bons agriculteurs, de bons ouvriers et de bons soldats. Voilà. Bon, ça a un petit peu changé après les deux guerres mondiales, avec ces millions de morts et l'essor du socialisme et du syndicalisme enseignant. Tout ça a un petit peu changé la donne. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un certain consensus parmi les enseignants sur la nécessité d'éduquer la paix. Aujourd'hui, donc, on semble assister à un complet renversement du paradigme selon lequel l'éducation à la paix serait presque une entrave à la neutralité, cela donc au contraire de l'éducation à la défense. C'est ce que déplore Paul Devin, c'est un ancien inspecteur de l'éducation nationale qui est président de l'Institut de recherche de la FSU. L'école est là pour développer le jugement critique, souligne-t-il. Or, ce n'est pas du tout le registre des militaires, qui ne sont pas connus pour laisser place à quelconque débat contradictoire. Voilà, cette pression politique pour faire entrer l'armée à l'école, que ce soit dans les établissements ou dans les programmes, est bien sûr liée à l'intensification des conflits sur la scène internationale, à l'émergence de puissances hostiles à l'espace européen et à ses valeurs encore démocratiques. C'est, on va donner les derniers mots de cet article à Olivier Lecourt-Grandmaison, qui est maître de conférences en sciences politiques et surtout l'auteur de « La fabrique du roman national républicain » aux éditions Amsterdam, c'était publié l'an dernier. Voici ce qu'il explique donc à cette pression politique. Elle correspond avant tout à la doxa de l'extrême droite et maintenant du Bloc central, qui pensent qu'il y a un effondrement de l'autorité qu'il faudrait restaurer par le biais de l'école. Or, dit-il, il faut ériger une muraille de Chine entre l'armée et l'éducation nationale. L'instruction publique doit être exclusivement assurée par des professionnels de l'éducation, pas par des militaires dont ce n'est pas la fonction. On doit enseigner non l'amour de la France, mais l'éducation aux valeurs républicaines que sont liberté, égalité, adelphité, il utilise le mot à la place de fraternité, et la défense des droits fondamentaux. On vient de panthéoniser Manouchian, il ne se battait pas pour la France, mais pour la démocratie et la révolution.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Allez, j'espère qu'on vous a pas trop retourné l'estomac, et si vous passez à table, bon appétit. On se donne rendez-vous eh bien, la semaine prochaine, chers amis, pour d'autres nouvelles du monde. Allez, portez-vous bien.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein ? Par exemple, bon, il y en a plein, hein, les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.